La tâche d'une critique de la violence peut se définir en disant qu'elle doit décrire la relation de la violence au droit et à la justice. Walter Benjamin. Critique de la violence de Walter Benjamin, fragments et feedback. Une proposition radiophonique d'Alpha Béville sur les ondes de Radio Grenouille, dans le cadre du cycle de la guerre et de la paix. À partir d'une lecture par Liliane Giraudon, Suzanne Joubert, Aglaïa Moucha, Colette Tron, Marie Bassière, à Montevideo, mercredi 13 avril 2016. Commentaires et entretiens avec Liliane Giraudon, écrivain, Nathalie Quintan, écrivain, Sylvain Georges, auteur et réalisateur, Amandine André, écrivain, Franck Hansel, artiste et théoricien. Dans sa critique de la violence, le philosophe Walter Benjamin interrogeait les états, formes, moyens et fins de la violence à l'endroit des rapports moraux. La violence se justifie-t-elle? Qu'est-ce qui l'autorise? Comment se manifeste-t-elle? Est-il, d'une façon générale, possible de liquider les conflits sans recourir à la violence? Critique de la violence de Walter Benjamin, fragments et feedback. Cinquième feedback, Franck Hansel.
Ce que je trouve assez fascinant, c'est la possibilité de ne pas donner des réponses. Et Walter Benjamin, c'est une question sans réponse. C'est déjà par là que ça commence. En tous les cas, ça commence comme ça pour moi, parce que la figure de l'intellectuel, la figure de... personnage qui traverse le XXe siècle, c'était une sorte de mythe pour une personne comme moi qui arrive comme ça à la fin du XXe siècle et qui cherche des idées, qui cherche des pistes, qui réfléchit un peu comme tout le monde. Il y a un personnage qui, une espèce de fantôme comme ça au XXe siècle. Et donc c'est une figure avant tout avec des livres fascinants, mythiques également. D'ailleurs, si on a choisi cet endroit pour discuter ensemble avec Colette, c'est parce qu'on est dans un passage parisien. On est dans un café situé à quelques dizaines de mètres du ministère de la Culture. Et on va parler de culture, je crois, par rapport au texte que tu m'as proposé, enfin l'extrait que tu m'as proposé. Il y a le mot culture, il n'y a pas que le mot critique par rapport à la violence. Et il y a peut-être une violence de la culture aussi. Il y a cette citation de Benjamin qui me vient à l'esprit, où il parle de la culture avec un rapport de violence aussi, qu'il y a intrinsèquement dans la culture une certaine violence. Et il y a cette fascination chez Benjamin dans quelque chose, peut-être pas de l'immanence, mais de l'aura, de quelque chose qui est originel, de quelque chose qui nous échappe en même temps. Il y a une dialectique. Il y a une dialectique entre la question et la réponse. Et cette dialectique-là, je crois qu'il faut pouvoir l'expérimenter dans sa vie et... choisir d'être dans un passage parisien pour parler ensemble, je trouve ça symbolique, mais c'est aussi chargé de sens, puisque dans ce passage parisien, Véro Doda, il y a les archives de Denise Belon, une photographe qui a bien connu les surréalistes, et on connaît l'intérêt de Benjamin pour la photo. Et la photo, c'est aussi cette dialectique entre ce qui fige et ce qui nous échappe, surtout à l'heure actuelle avec la notion du numérique. Alors, puisqu'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de réponses. Mais la déambulation, pour moi, réellement, elle commence par une rencontre avec une grève. C'est une anecdote que je répète de manière peut-être pour m'en libérer, parce qu'en fait, je me trouve enchaîné à un endroit très particulier, à une frontière. C'est la frontière où Benjamin s'est arrêté. Et il s'est arrêté à la frontière franco-espagnole, en Catalogne, en 1940, et c'est là où sa vie s'est arrêtée. Et c'est là où, par le plus grand des hasards, je me suis retrouvé, à cause d'une grève de train, à Portbou. Mais avant, je me suis retrouvé bloqué à Cerbère, le village de l'autre côté de Portbou, où Benjamin n'a certainement jamais pu passer, parce qu'il est passé par la montagne, mais bloqué par une grève des trains en 1998. Je me suis souvenu que Danny Caravan avait rendu un hommage à Walter Benjamin, Et donc pour moi, ça faisait sens d'aller voir à quoi ressemblait ce passage, ce dispositif qui est en fait initiatique à côté du cimetière, pour garder en mémoire le travail de Benjamin aussi dans la forme. Et un passage parisien, ça traverse les murs, c'est une question de l'urbain. Et le passage qu'a créé Danny Caravan traverse la montagne entre le ciel et la mer. Une expérience très chargée qui m'a amené après à m'interroger sur que faire entre le mythe Benjamin, ses livres, qu'en faire. Et donc il y a un projet qui dure depuis maintenant...
Le toilette.
Nous sommes en café Passage Vérodeda, café qui s'appelle La Belle Époque. Et il y a aussi ce rapport à la vie. Et donc c'est ça que je cherche à retrouver à travers les écrits de Benjamin et à travers de ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette frontière et cet arrêt? Donc j'ai mis en place un projet. Après 98, il m'a fallu 5 ans et on a fait un projet qui perdure toujours. Il m'a fallu 5 ans pour trouver le bon moment pour faire quelque chose. Et depuis chaque année, je fais quelque chose à la frontière franco-espagnole. Il y a de plus en plus de gens qui font des choses à la frontière franco-espagnole. D'ailleurs, il y avait déjà des gens qui faisaient des choses à la frontière franco-espagnole avant. Mais tout mon enjeu, c'est d'essayer de penser l'invisible et de quelle manière on peut traverser les frontières, rendre visibles des choses invisibles. Bon, ça serait trop complexe en 20 minutes d'expliquer tout ce projet. Mais à l'heure actuelle, ce projet, il a la forme d'une application sur téléphonie mobile gratuite qui met en avant des connexions entre la photographie, Walter Benjamin, le territoire. C'est une invitation à expérimenter ce territoire, parce qu'encore une fois, les textes, ça se lit, les frontières, ça se traverse. Et parfois, comment on pense l'impossibilité de traverser les frontières? Comment on pense et comment on vit l'impossibilité de vivre dans un monde qui nous est offert? Et c'est vraiment tout l'enjeu qui me fascine chez Benjamin, c'est pas la fascination pour un suicide. Ce que je trouve assez fascinant, c'est de quelle manière, à la différence du suicide d'autres intellectuels qui se sont retrouvés confrontés à l'impossibilité de continuer leur travail, je pense particulièrement à Stefan Zweig par exemple, pour Benjamin, je crois qu'il y a un essoufflement. Il y a un essoufflement et un choix dans lequel il a été poussé. Je dirais même que son suicide est peut-être un meurtre. Il y a des zones d'ombre, et si je parle des zones d'ombre sur ce qui s'est passé dans ce petit village... C'est pas pour faire des rapprochements ou dire que voilà, on vivrait une époque où effectivement il y a des personnes qui ne peuvent pas traverser les frontières. Ce que je trouve fascinant, c'est que ça nous échappe toujours. La pensée de Benjamin nous échappe, sa vie nous échappe. Et encore une fois, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste simplement quelqu'un qui a été acculé et qui a cherché à penser l'impensable et qui pour ça n'a pas pu faire carrière à l'université, qui pour ça n'a pas pu traverser une frontière. Pour assumer ses choix, et c'est ce qu'il nous lègue, assumer ses choix, ça veut dire être en phase avec soi-même. Et être en phase avec soi-même, ça veut dire se confronter aussi avec des personnes qui, justement, ne sont pas pour donner liberté à la pensée, liberté de circulation des idées, liberté de circulation des corps.
Die Aufgabe einer Kritik der Gewalt lässt sich als die Darstellung ihres Verhältnisses zu Recht und Gerechtigkeit umschreiben. Denn zur Gewalt im prägnanten Sinne des Wortes wird eine wie auch immer wirksame Ursache erst dann, wenn sie in sittliche Verhältnisse eingreift. Die Sphäre dieser Verhältnisse wird durch die Begriffe Recht und Gerechtigkeit bezeichnet.
La tâche d'une critique de la violence peut se définir en disant qu'elle doit décrire la relation de la violence au droit et à la justice. En effet, de quelque manière qu'une cause agisse, elle ne devient violence au sens prégnant du terme qu'à partir du moment où elle touche à des rapports moraux. Le domaine de ces rapports est caractérisé par les notions de droit et de justice. Pour ce qui est d'abord du premier, il est clair que le rapport fondamental le plus élémentaire de tout ordre de droit est celui de fin et de moyen. Et aussi que la violence ne peut se trouver d'abord que dans le domaine des moyens, non dans celui des fins. À une critique de la violence, ces deux affirmations apportent plus, mais aussi autre chose qu'il ne pourrait sembler. Car si la violence est moyen, un critère pour sa critique paraîtrait par la même donnée. Il s'impose lorsqu'on demande si, en des cas déterminés, la violence est moyen pour des fins justes ou injustes. Sa critique serait ainsi donnée de façon implicite dans un système de fins justes. Or, il n'en est pas ainsi, car à supposer que ce que contiendrait un tel système fût à l'abri de toute contestation, le critère qu'il contiendrait ne serait pas un critère de la violence elle-même en tant que principe, mais ne concernerait que ces cas d'application. La question resterait toujours ouverte de savoir si la violence en général est morale en tant que principe, fût-ce comme moyen pour des fins justes. Or, pour en décider, il est besoin d'un critère plus précis, d'une distinction dans le domaine des moyens eux-mêmes, abstraction faite des fins auxquelles ils servent.
La lecture des extraits que tu m'as proposé, tout de suite m'est venue une idée en apparence totalement saugrenue et pourtant qui fait totalement sens quand on ne donne pas le nom de l'auteur. Il y a un texte qui s'appelle « Leur morale et la nôtre » qui pose la question de la violence en société, la violence en tant que guerre, le rapport à l'éthique avec cette violence. Et c'est un ouvrage, une brochure qui a été écrite effectivement à la même époque. Plus curieusement, c'est une brochure. Je me suis posé la question de savoir si Walter Benjamin aurait pu avoir eu connaissance, aurait pu lire cette brochure. Je ne l'ai pas cherché. En fait, cette brochure, Leur morale est la nôtre, c'est une brochure, un texte écrit par quelqu'un qui a eu la nécessité de se justifier sur des actes de guerre. C'est le fondateur de l'Armée rouge, c'est Trotsky. Et c'est un texte qui explique l'éthique. Donc c'est pas un texte pacifique, et je crois que dans ce que cherche à comprendre, à réfléchir et à vivre Walter Benjamin, on est loin d'un côté de la frontière et de l'autre côté de la frontière. On n'est pas sur la frontière non plus, on traverse les frontières, ce qui donne des fragments. Bien sûr, ça donne des fragments, et les fragments, il y a toujours de la casse, il y a toujours des choses qui sont plus diluées que des positions fermes. Voilà. Et je pense que Leur morale et la nôtre, c'est un texte de quelqu'un qui a assumé effectivement un engagement politique à travers la révolution russe, soviétique, et également tout ce qui s'est passé vis-à-vis de Kronstadt. Voilà. Donc on ne va pas faire d'histoire politique à ce niveau-là, ce n'est pas le sujet. Mais je trouve que dans l'extrait évoqué ensemble, coule tout le long cette question de la morale. Et bizarrement, je ne peux pas m'empêcher qu'il y ait une voix. Alors peut-être que c'est mon inconscient qui parle aussi. Hein, peut-être que c'est moi qui veux trouver du trotskisme chez Walter Benjamin. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils partageaient tous les deux un intérêt pour la liberté des idées, un intérêt pour la littérature. Et ça, c'est incontournable. Voilà. C'était tous les deux des rats de bibliothèque. Et on n'est pas très loin de la Bibliothèque nationale de France, la salle Richelieu, que je trouve assez fascinante par rapport à ce que l'on peut vivre comme expérience. Donc la frontière franco-espagnole, pour moi, c'est un lieu qui est un lieu d'expérience. Ce n'est pas simplement un lieu de pèlerinage où on viendrait se recueillir ou découvrir des choses ou être inspiré par rapport à là où... Non, c'est vraiment un lieu d'expérience. Et je crois que, au-delà de l'hypothèse d'un meurtre, peut-être que c'était là où il devait finir sa vie. Je pense que l'échappatoire aux États-Unis n'était pas une solution. Et je trouve que ces questions-là sont très importantes par rapport aux générations présentes et futures. De quelle manière on construit sa vie, de quelle manière on a un rapport éthique avec les choses et de quelle manière on vit dans un fragment, dans un monde fragmenté, de quelle manière on peut vivre ça. Et tout l'enjeu, c'est effectivement d'accepter ça, parce que Benjamin se confronte, comme d'autres intellectuels de l'époque, à des gens qui ne veulent pas du fragment. Des gens qui croient qu'effectivement tout est une certaine unité, alors que chez Benjamin, effectivement, on comprend bien et il vit au fond de lui-même, et il vit d'ailleurs dans son corps. Une autre explication... par rapport au fait qu'il n'ait pas pu traverser la frontière, c'est qu'effectivement, il était asthmatique, essoufflé, il n'avait pas une condition physique lui permettant, mais je ne suis pas certain que ce soit ça le problème, c'est qu'il était essoufflé par le monde dans lequel on était, et de quelle manière on peut respirer. Alors, il y a deux mots qui ont fait sens et qui m'ont beaucoup parlé aussi dans les deux extraits. Et je ne sais pas comment les relier, mais il y a voilà, culture du cœur. Ça m'a quand même beaucoup surpris chez Benjamin, parce que effectivement, la culture du cœur, ça renvoie à des choses. Si on sortait de son contexte culture du cœur, moi je le perçois tout à fait dans un environnement presque bouddhiste par rapport à la spiritualité, par rapport à un rapport avec les autres. Et il y a bien évidemment toute la filiation avec la spiritualité qui est déluée chez Benjamin et qu'il ne faut pas relier d'un point de vue théologique. Il ne faut bien pas relier non plus d'un point de vue politique par rapport à une filiation avec des dogmes, mais encore une fois avec une manière d'être libéré. Voilà. Et la manière de se libérer, c'est effectivement parfois de se laisser porter et de se laisser porter sans illusion. Donc je crois qu'il n'avait pas d'illusion en allant sur ce chemin qui pouvait le conduire aux États-Unis, comme il n'avait pas d'illusion non plus sur ce chemin qui aurait pu le conduire en Palestine. Voilà.
C'est très intéressant, je trouve, cette question du fragment, puisque en même temps ça nourrit l'écriture de Benjamin, ça nourrit la forme, et c'est un antidote ou une réponse négative au totalitarisme qui va sévir en Europe. Le texte date de 1921, mais... Il y a quand même eu la Première Guerre mondiale. Il y a deux ans auparavant, 1919, la création de la Société des Nations. Avec culture du cœur, il y a aussi le terme de paix, qui n'est pas si simple dans les textes de Benjamin et qui ne s'oppose pas forcément au terme de guerre. Mais enfin, c'est cette dualité inverse entre fragments et totalitarisme. Pas totalité, mais plutôt totalitarisme.
Ouais, c'est évident qu'il faut remettre dans le contexte de l'époque des années 20 et après tout ce qui va être développé dans son rapport avec les avant-gardes historiques et surtout son parcours d'autonomie. Parce qu'il y a aussi cette autonomie chez Benjamin qui est liée avec sa personnalité. Le fragment, bon, pour moi, il est directement en relation avec la question du montage, que ce soit au niveau du cinéma, de la photo, bien évidemment. Et donc, c'est-à-dire d'accepter... On a parlé de division, on a parlé d'accepter plusieurs réalités. Et le totalitarisme n'a qu'une réalité. Et je crois qu'on est dans une époque qui vit toujours sous une certaine forme de totalitarisme où on essaye d'imposer sa vérité à l'autre. où les formes de violence en apparence sont beaucoup plus diluées. On ne peut pas s'empêcher de penser non plus qu'à cette époque-là, le roman de Zamiatine par rapport à l'Union soviétique, Nous autres, va être écrit pour dénoncer effectivement cette émergence du totalitarisme, qu'il soit rouge ou qu'il soit brun. On peut penser aussi également, c'est toute cette formule chez Orwell sur 1984, effectivement, la guerre c'est la paix. Toute cette dialectique. Alors bien évidemment, Benjamin n'est pas dans cet environnement-là, mais il y a des notions de dialectique qui sont là. Et il y a cette chose que l'on trouve dans la photographie, dans le montage, dans le fragment, qui est de se dire de quelle manière effectivement on existe, on respire dans l'espace, dans l'univers, dans le monde, sur le territoire dans lequel on est, mais aussi de quelle manière on est projeté dans le temps. Et là, c'est effectivement toute la question de Laura et tout ce qu'il va développer après sur la reproductibilité. C'est effectivement quelque chose de quelle manière on renouvelle un rapport qui est en fait totalement permanent dans l'humanité, mais avec une fraîcheur qui vient certainement d'une certaine rigueur. C'est à la fois, il est dans le monde, il est hors du monde, il est engagé et il est désengagé. Il est prêt à partir aux États-Unis et à la fois il voudrait rester en Europe. Donc c'est vraiment toute cette dualité là. C'est-à-dire on pourrait imaginer autre chose, mais venue en tête, qui peut être assez surprenante aussi, c'est j'hésite à en parler parce qu'on pourrait faire des rapprochements de familles politiques alors que c'est beaucoup plus complexe. Mais et puis on est sur l'après-Seconde Guerre mondiale, mais Pasolini. Tout le rapport avec l'engagement chez Pasolini et le fait d'être humain, c'est un travail. Et la culture du cœur, je l'aperçois comme ça. C'est un travail, c'est pour ça que je parlais de ce clin d'œil bouddhiste. Il y a un travail à faire, il y a un engagement à faire, ça passe par une expérience corporelle. Voilà.
Est-il, d'une façon générale, possible de liquider les conflits sans recourir à la violence ? Incontestablement. Les rapports entre personnes privées sont pleins d'exemples en ce sens. On trouve une entente sans violence partout où la culture du cœur a pu fournir aux hommes des moyens purs pour parvenir à un accord. Au moyen de toutes sortes, conformes ou contraires au droit, qui pourtant tous, sans exception, ne sont que violence, on peut opposer comme moyen pur ce qui exclut la violence. Leurs présupposés subjectifs sont la courtoisie cordiale, la sympathie, l'amour de la paix, la confiance et toutes les autres attitudes de ce genre. Mais ce qui conditionne leur manifestation objective est la loi, selon laquelle les moyens purs ne sont jamais des moyens de solution immédiate, mais toujours de solution médiate. Ils ne renvoient donc jamais directement à l'apaisement des conflits d'homme à homme, mais passent toujours par la voie des choses concrètes. C'est dans la relation la plus concrète entre conflits humains et biens que se découvre le domaine des moyens purs. C'est pourquoi la technique, au sens le plus large du terme, est leur domaine le plus propre. Le meilleur exemple en est peut-être le dialogue, considéré comme technique d'accord civil. Ainsi s'exprime l'existence entre les hommes d'un terrain d'accord à tel point non violent qu'il est totalement inaccessible à la violence. C'est le domaine propre à l'entente, celui du langage.
Passage vers Rododa où nous sommes, donc il y a la fondation Denise Belon qui a fait une photographie que j'utilise régulièrement entre le ciel et la terre et que j'utilise dans ce dispositif maintenant sur téléphone mobile gratuit où j'avais utilisé en vidéo. Et c'est de quelle manière effectivement on traverse les horizons. On traverse les horizons, pas simplement en se déplaçant avec le corps. L'expérience corporelle, elle passe par un déplacement qui est plutôt une mise en avant. Un engagement. C'est comme ça qu'il faut certainement entendre l'engagement de Benjamin, non pas comme un engagement de personne intellectuelle encartée, mais non pas comme quelqu'un qui n'aurait pas trouvé son bon parti, mais quelqu'un qui, effectivement, qui est investi, qui est en marche, qui chemine. Et effectivement, ce cheminement, il ne peut être que lié avec des impasses. Voilà, ça c'est certain. Et puis, la violence, aujourd'hui, on la respire. Elle est présente et ce qui moi m'interroge, c'est de quelle manière on peut continuer à vivre dans le monde dans lequel on est. Et tout ce travail sur Benjamin ou d'autres choses, c'est presque un travail cathartique. C'est-à-dire que c'est des questionnements qui permettent de comprendre non pas ce qui a pu se passer il y a 60-70 ans, mais c'est des questionnements qui prennent une forme concrète avec des formes artistiques, qui questionnent le digital, qui questionnent le cinéma. Tout ça, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais qui offre une perspective de réflexion et d'oxygénation. On peut respirer. De quelle manière on peut respirer à l'heure actuelle? Et puis alors j'aurais deux anecdotes. La première, c'est que à Paris, il y a quelques années, j'ai eu une discussion avec deux intellectuels dans un bistrot. Nous avons échangé. Et c'était assez vif l'échange justement à propos de Walter Benjamin et justement à propos de tous ces intellectuels qui étaient tellement engagés. Qui n'était pas dans les lignes ou qui n'avait pas pris les bateaux pour aller aux États-Unis comme il fallait, qui n'avait pas fait ceci, mais qui étaient respectés pour leurs livres alors que personne ne les avait lus. Des intellectuels qui étaient tellement respectés que pendant 15 ans, personne ne savait où il a été enterré. Donc, en fait, des gens qui sont totalement coupés de toute réalité. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à un moment donné, c'est de quelle manière on revient à la matière. Et toute la question de l'aura, elle est là. Elle n'est pas simplement métaphysique ou spirituelle. Et de quelle manière on revient à un acte, un engagement, quelque chose qui se met en acte et qui assume le fragment. Alors, cette discussion, à cette époque, s'est terminée par un... très brièvement, puisqu'on n'était pas du tout d'accord sur cette interprétation de l'histoire, et je trouve que la figure de Benjamin est juste intouchable. Et je suis parti, et devant le colonel Fabien, une voiture s'est arrêtée, qui n'a rien à voir avec ces deux messieurs, et j'ai pris deux coups de poing. Voilà. J'ai pris deux coups de poing devant le colonel Fabien, et je me suis dit, tiens, tout ça fait sens. Voilà. Donc ça m'a rafraîchi les idées, et ça m'a rafraîchi les idées pour savoir aussi que ce que l'on peut lire de Walter Benjamin, c'est des fragments aussi qui nous ont été transmis par des gens qui se sont engagés. S'il n'y avait pas eu Hannah Arendt, Gershom Scholem pour faire le travail qu'ils ont fait, jamais ces ouvrages seraient arrivés jusqu'à nous. C'est aussi pour ça que j'apprécie beaucoup ce travail de Dani Caravan à la frontière franco-espagnole en hommage à Walter Benjamin. Non pas simplement parce qu'effectivement c'est une expérience qui est fascinante et troublante parce qu'elle est glaciale dans un sens où quand même vivre une expérience forte et d'une grande beauté par rapport à quelque chose qui est une grande catastrophe, ça nous pose question. Je crois que la violence, je pense à un texte sur la tragédie baroque chez Benjamin, hein, ce texte sur la tragédie baroque qui ne lui a pas permis effectivement d'enseigner. Et il y a tout ce questionnement d'une autre violence. Voilà. La violence a plusieurs formes. Et elle ne nous échappe pas. Il n'y a pas des gens qui sont violents et d'autres non violents. Nous sommes habités. Et tous les êtres humains sont habités par cette violence-là. C'est en ça où j'entends la culture du cœur dans son texte. Et c'est en ça où résonnent ces formules de Pasolini sur comment ne pas devenir fasciste ou comment ne pas devenir violent. Et je crois qu'effectivement, la meilleure manière de, pour certains intellectuels face à la montée de la Seconde Guerre mondiale n'était pas de s'échapper, parce que de toute manière, ils n'avaient pas le choix, mais c'était aussi surtout d'assumer cette dualité. Voilà. Et cette dualité, c'est ça qu'il nous lègue. Il nous lègue des fragments, et il ne nous lègue pas simplement un corpus doctrinal qu'il faudrait vénérer. Il lègue des chemins et il nous invite à ce qu'effectivement chacun puisse faire des expériences, des relectures. Alors tu parlais effectivement de ce rapport à l'écriture, ce qui est assez fascinant. Ce rapport à l'écriture, c'est aussi un rapport à la construction de sa personnalité. Voilà. Et la question du fragment, elle est de quelle manière on est en héritage dans une balance entre le passé et le présent, entre effectivement ce passé qui à chaque minute est une petite mort. Et c'est en assumant ces aspects-là qu'on peut continuer à vivre. Et c'est en continuant à assumer effectivement la tristesse du monde dans lequel on est qu'on peut effectivement aller jusqu'au bout. Mais lorsqu'on est au pied des Pyrénées, on se dit que le bout, il est vraiment là. Voilà. Je crois qu'il est là.
Critique de la violence de Walter Benjamin. Fragments et feedback. Cinquième feedback, Franck Hansel. Une proposition radiophonique d'Alpha Béville sur les ondes de Radio Grenouille dans le cadre du cycle de la guerre et de la paix.